cœur.
Tous les lundis soirs de 19h à 20h, retrouvez Prokisto. Découvrez ou redécouvrez toute l'histoire de la pop et du rock avec Polo et Thierry. C'est tous les lundis soirs sur REC 103.7. Tous les lundis soirs de 19h à 20h pour vous raconter l'histoire de la pop et du rock avec Prokisto. Prokisto sur REC 103.7.
Eh bien, bonsoir à tous, chers amis de la bonne musique. On se retrouve donc dans Prokisto, comme tous les lundis soirs. Et je suis toujours avec mon ami Anthony. Bonsoir Anthony.
Salut Polo.
Voilà, salut. Eh bien, Anthony, bah, t'es mieux intégré dans Prokisto que la couleur rouge sur un drapeau CGT quand même.
Hein. Ah ouais. Waouh.
Bah, c'est la troisième émission là que tu fais.
Quatrième.
Quatrième.
Ah ouais, ça enchaîne.
Ouais, dis donc. Et t'es à l'aise, t'es hyper à l'aise.
Bah, je suis content d'être de retour tous les lundis au micro de Radio Écho des Choucas.
Super.
Donc voilà, c'est cool.
On fait quoi ce soir?
Eh ben, si ce soir, par exemple, on parlait du duo Jack Gillis-Meg White.
Eh ben ouais, eh ben tiens, on va en parler. Ouais, eh ben justement, Jack Gillis fait la rencontre de Meg White au Memphis Mock, un restaurant où elle travaillait, et lisait ses poèmes en scène ouverte. Alors à cette période, Gillis jouait déjà de la batterie avec des musiciens comme Brian Muldoon ou Justin Stockton. Ainsi, en 94, il est batteur dans le groupe de co-punk Gobber and the Peace. Tu peux en parler du co-punk?
Ouais, pas vraiment en fait. J'imagine
d'accord.
C'est du punk à vache, quoi.
Du punk à vache.
Littéralement. Hein.
Il y avait les cowboys et maintenant il y a les co-punk.
C'est ça. Et donc on a Gillis et White qui se marient en septembre 96. Et contrairement à ce que veut la tradition, Jack prend le nom de sa femme. Il devient donc Jack White. Peu après, son groupe Gobber and the Peace, justement, il se sépare, mais Jack continue de jouer au sein d'autres groupes. En 97, Meg commence de son côté à apprendre la batterie. Le couple lance alors son propre groupe, en hésitant avec des noms tels que Bazooka ou Soda Powder. Mais il s'établit finalement sous le nom de The White Stripes.
Eh oui.
Maintenant que vous savez de qui on parle, on vous fait pas plus languir et puis on va écouter un des riffs les plus célèbres du rock.
Bah oui, forcément, et c'est Seven Nation Army. Allez, c'est parti.
Time right behind.
Et ouais, Seven Nation Army, le grand tube de The White Stripes, on reviendra sur ce titre tout à l'heure, mais pour l'instant, Polo, on va s'intéresser à leur début et vous faire découvrir la carrière du duo.
Bah oui, parce que bah, duo, groupe quand même, hein, deux c'est un groupe.
Ouais.
Bah oui, The White Stripes effectue leur première performance scénique en août 97 à Détroit. Alors ils commencent leur carrière dans la scène du garage rock underground, jouant avec des groupes locaux comme The Henchmen, The Death Bomb ou encore The Gorillaz. Des groupes que je ne connais absolument pas,
ouais,
mais qui étaient très connus à Détroit à l'époque. En 98, Dave Brick, propriétaire du label indépendant de Garage Punk Italy Records, fait la rencontre du groupe dans un bar et leur demande d'enregistrer un single. Alors Jack refuse initialement l'offre, pensant que ça coûterait trop cher, mais accepte finalement quand Brick leur annonce bah, qu'il prend tout à sa charge.
Ah bah oui. Ça change la donne.
Bah oui, c'est plus simple.
Et donc, ce premier single s'appelle Let's Shake Hands. Il est publié en format vinyle en février 98 et il est pressé à 1000 copies. Il est suivi par un deuxième single qui s'appelle Lafayette Blues, qui lui aussi est publié en format vinyle et pressé à également 1000 exemplaires.
Et
c'est ce morceau qu'on va écouter maintenant,
oui,
leur deuxième single.
Tout à fait. On a récupéré un des exemplaires des 1000 et ouais, on va écouter Lafayette Blues. C'était Lafayette Blues.
Voilà. Ouais, un son bien garage. Un son bien garage. Et en fait, on va attendre un an pour que Jack et Meg sortent leur premier album qui s'appelle The White Stripes le 15 juin 99. Et cet album est dédié aux musiciens de Delta Blues, Son House. L'album témoigne d'une affection primordiale du groupe pour le blues avec les reprises de deux standards du genre, Stop Breaking Down et St. James Infirmary Blues. Ainsi également une reprise de Bob Dylan. Jack White décrira rétrospectivement cet album comme le plus furieux et le plus cru, le plus puissant et musicalement le plus détroit.
Le plus détroit, World Destroy.
Ouais.
Tiens, en fait, on a regardé, pour les auditeurs, on a regardé Co-Punk, hein, ce que ça voulait dire. Alors, c'est vrai qu'en France, on a les punks à chiens, là, c'est pas les punks à vaches. Hein. C'est, en fin de compte, c'est un mélange entre le punk rock et la country, on va dire.
Voilà,
country blues.
Du punk de redneck.
Voilà, c'est ça. On écoute quelque chose ?
Bah on va écouter ouais un nouveau morceau qui s'appelle Stop Breaking Down.
Et en live en plus.
Et ouais, et c'est donc une des deux reprises de standard du blues de leur premier album.
Ah bah c'est parti.
Well, I learned how to walk it now.
On n'imagine pas, quand on écoute Seven Nation Army, quand on connaît principalement le groupe à travers ce titre, que le blues, en fin de compte, les faisait triper, les faisait kiffer à ce point-là, quand même.
C'est très, très blues, là.
Ah ouais.
Dirty Old Souls.
Après, là, c'est vrai qu'ils ont, c'est une reprise de blues, donc, mais qui est, où ils gardent vraiment l'âme complète, quoi. Alors, à la fin 99, The White Stripe publie le 45 tours And the Springs. Et leur deuxième album, alors là, excusez-moi de la prononciation, surtout pour les Bataves, The Stigle, est publié en juin 2000. Considéré comme un classique et enregistré sur une cassette analogique, 8 pistes dans la chambre de Jack, c'est du do it yourself, hein. The Stigle expose un blues simpliste et scoozy garage rock notable. Cet album se compose de 13 morceaux sonorités à la fois garage, blues et folk à l'occasion. Alors, The Stigle est inspiré par le nom d'un mouvement néerlandais ayant pour principe une purification radicale de l'art, passant par un retour à des formes et à des couleurs basiques, ce qui définit relativement bien le style de White Stripe. Et on en parlera tout à l'heure par rapport à leur côté visuel, par rapport à tout ce qu'ils avaient au niveau pochette.
Ouais, et les albums The Stigle et The White Stripes ne sortent en Europe qu'en 2001, en fait, et c'est-à-dire en même temps que White Blood Cells.
Ouais, donc il n'y a pas le temps de le troisième album pour les connaître en Europe.
Ouais, c'est ça. C'était petit groupe états-unien local, quoi. Et après, c'est devenu plus gros. Et on a un morceau à écouter qui s'appelle Handsprings.
Ouais, on en a parlé tout à l'heure. C'était le single. Et bah, allez, c'est parti. I took my girl to go bowling downtown at the Red Door. After an argument I started because I thought she didn't like me anymore. Can't help it, sometimes I feel pitiful. And of course she's so young and beautiful. I bought us two glasses of Coke, that's her favorite and I wanted to make up for earlier. But I dropped her glass and it broke, so I just gave my glass to her.
so did I in our lane. Then she went to the vending machine to buy a candy cane. But right next to that was a boy I knew with a spring in his hand, playing a country pinball machine called Stand By Your Man. I saw him talk to her, but I stayed in my lane and played my game steady, and was thinking of a day when I'd be too old to throw a ball this heavy. To knock them all down. Then I looked and saw her say to him, "You're really hitting that ball around." And he's looking at her the way I did when I first met her. I can see in his face white flowers and cups of coffee and love letters. I was sorry to interrupt that game, but I went and did it anyway. I dropped my red bowling ball through the glass of his machine. I said, "Are you quick enough to hit this ball, Mr. Clean?" I was scared to lose her, so I couldn't help being mean. Sorry, but my girl left with him just the same. I thought how much I hate when love makes me act this way. I was bent over a broken pinball machine in a bowling alley and I threw it all away.
Yes, c'était Hans Springs, du son garage blues.
Ouais. Ça change du blues de tout à l'heure, mais on s'est aperçu qu'ils étaient quand même multicolores.
C'est ce genre de blues un peu parlé aussi, c'est une autre école. Et puis toujours avec un son bien sale, ça fait garage, voire même grange, quoi, un peu. Hein. Blues de la grange. Et donc ce troisième album qui était enregistré en moins d'une semaine, qui s'appelle White Blood Cells, est publié le 3 juillet 2001. Ce sera l'album qui les fera connaître en dehors des frontières américaines. Un petit peu le début du succès vraiment pour eux là. Et l'album est même réédité l'année suivante. Leur son garage rock les rend très populaires en 2002, au Royaume-Uni et aux États-Unis peu de temps après. Et ça fait du groupe le groupe le plus acclamé de l'année. Jusqu'à cet album, ils gardent des inspirations blues comme on a pu l'entendre là. Le magazine Rolling Stone place l'album en 497e position de son classement des 500 plus grands albums de tous les temps.
C'est quand même pas mal. Hein.
C'est pas mal pour le groupe qui commence à se faire connaître avec son blues. Et on a un autre morceau toujours de cet album là qui est sorti en 2001 et qui s'appelle The Union Forever.
Et c'est un live.
Ok. We'll be right back.
passes traction magnets on the run. Who likes to smoke? Enjoys a joke. And wouldn't get up and upset if he were really broke. With wealth and fame, he's still the same. And I bet you find you're not a liar if you don't know his name.
Bonjour, ici Didier Wampas dans le Mr. Poikisto dans la radio L'Écho des Choucas.
Ouais, et ben c'était donc The Union Forever en live. Ouais. Franchement, ça devait être du gros délire quand même.
Ah ouais, ça a l'air prenant. Hein,
ouais, ouais, c'est vrai que ça fait penser des fois un peu à. Il y a le chant, il me fait un peu penser au délire de Nina Hagen, tu vois. C'est un peu spécial.
C'est très habité en tout cas.
Ouais. Alors je sais pas si c'est suite à un délire, mais il a un accident. Jack White a un accident de voiture en 2002 et il se casse l'index de la main gauche, ce qui est un peu con pour un mec qui doit jouer de la guitare. Il a donc subi une opération qui a perturbé son jeu et selon lui, à la sortie de Elephant en 2003, donc l'album qui va suivre, ses capacités étaient réduites à 60%, ce qui l'a poussé à apprendre des accords avec son petit doigt. Pas simple.
Eh oui.
Toi donc, qui es guitariste.
Bah, l'index, clairement, ouais, c'est 60%. C'est le pourcentage admis communément. Non, je sais pas, c'est un chiffre marrant, mais effectivement, l'index, ça sert un peu. Donc, il a dû changer un peu de style pour continuer à jouer de la guitare. Et donc, leur album suivant, Elephant en 2003, c'est l'album qui marque la consécration du groupe. L'album est salué par le grand public et une partie de la critique qui apprécie un heureux retour aux sources du rock, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas suivi le groupe à ses débuts, et leur capacité unique à faire de deux personnes, simplement deux personnes, et bien un groupe. Le titre Seven Nation Army est emblématique de cet album, où la guitare de Jack laisse moins de place à la batterie que sur les albums précédents. Et en février 2004, cette chanson a remporté un Grammy Award pour la meilleure chanson rock.
Ouais, quand même.
Oui, oui, bah oui, c'est le gros succès sur cet album Elephant.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit The White Stripes, la plupart des gens ne connaissent que ce titre, Seven Nation Army. Mmh. Hein. Ce qui est dommage, parce que bon, il y a quand même du lourd à côté.
Hein. Ouais.
On écoute quelque chose ?
Eh ben, ouais, un morceau de Elephant, du coup, et le morceau s'appelle There's No Home For You Here.
It's just the kind to make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracted and leaves me standing here with nothing else to say. Completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up but to propel the situation have simply halted, now the conversation's done.
There's no one for you.
waiting for the proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace.
Eh ben oui, c'était There's no home for you here. Hein, ou here.
Here.
Here. Yeah, ah, pardon. Il faut que je fasse gaffe. Hein. C'était donc tiré de l'album Elephant. Alors, Jack White fait une apparition importante dans le film Retour à Cold Mountain en tant que Georgia. Il était à l'époque le compagnon de l'actrice Renée Zellweger et qui détient l'un des rôles principaux du film. Jack et Meg White jouent dans l'un des sketchs du film aussi Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch en 2004.
Oui, puis niveau musique, en même temps que leur tournée mondiale commençait en mai 2005, dont un passage en France le 16 octobre, Jack et Meg sortent en juin 2005 l'album Get Behind Me, Satan, dans lequel trois chansons sont jouées à la guitare électrique, mais le reste laisse place aux marimbas, au piano et autres sonorités acoustiques et assez exotiques. La critique est un peu mitigée, mais l'album marque une nouvelle évolution. Tout de même, il conserve pourtant cette touche caractéristique du duo. Et on peut écouter par exemple le titre Blue Orchid.
Eh ben, on écoute.
Ouais.
You took a wild orchid.
Ah bah c'est clair, net et précis à la fin.
Ouais. Ça s'arrête net.
Ouais,
c'était Orchidée bleue, pourquoi pas, je les aime autant rouge, mais ça s'appelle Blue Orchid. Et
bah voilà.
C'est les White Stripes toujours.
Eh oui, bah oui, parce qu'on parle d'eux hein, ce soir, parce qu'il faut bien les faire connaître quand même, hein, ce petit duo-là, hein, ce petit couple. Eh oui, Blue Orchid. Et en novembre 2006, sort un album hommage aux White Stripes, reprenant quelques-uns de leurs morceaux en version orchestrale. Alors son nom, Aluminium, est une référence au titre Aluminum, sans le I à l'américaine, de leur troisième album. Il ne sera tiré qu'à 3333 exemplaires en CD et 999 vinyles.
Eh oui, des chiffres précis,
ouais, ouais.
Ma foi. Et après, en 2007, le 19 juin, on voit l'arrivée du très attendu Icky Thump, leur nouvel album. Et il est salué par la critique pour son ton plus rock. Il se classe numéro 1 sur l'iTunes Music Store aux États-Unis. Mais le rythme de la tournée et de la surexposition nuisent beaucoup à Meg White, qui est atteinte de stress aigu. Le duo annule alors les concerts de la tournée Icky Thump de 2007, venant même à se poser la question de la poursuite de leur carrière. Et on a un morceau là qui est pourtant tiré de cet album, mais qui est pas très rock.
Ouais.
Et qui s'appelle Prickly Thorn But Sweetly Worn.
Ouais, alors c'est un live et on va remarquer en fin de compte, c'est beaucoup plus folklorique, on va dire, que rock. Allez, on écoute. Eh bien, c'était donc Prickly Thorn, but Sweetly Worn. Merci.
Pour on était à la grand-messe du folk américain, là. C'était...
Ouais, c'est... et on n'a pas réussi à savoir vraiment les instruments qu'il y avait derrière.
C'était ouais, voilà, plein d'instruments folkloriques. Et puis, je disais effectivement, ce qui reste, c'est la grosse caisse qui marque les temps, ouais, systématiquement, par contre.
Ah, c'est clair.
Elle est toujours là.
Eh ben en 2008, la journaliste Dominique Payette, donc journaliste canadienne, a décidé de poursuivre les Westripe à propos de Jumble Jumble. En effet, on peut entendre un extrait de l'émission 275 Allo Ado Radio, dans lequel Dominique Payette ainsi qu'un enfant prennent la parole. Alors cet extrait ayant été publié sans son consentement, l'ex-journaliste canadienne réclame 70 000 dollars et le retrait de l'album The Stygge de la circulation. Et là, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, car le 2 février 2011, le groupe annonce officiellement sa séparation. Mais alors, voilà. Mais alors, par contre, quelles étaient les inspirations de ce groupe ?
Côté inspiration, Jack White puise la source de ses compositions directement chez les plus grands bluesmen américains, tels que Son House, Robert Johnson ou Blind Willie McTell. Également chez des groupes de garage rock, aussi, comme The Gorillaz ou The Sonics. Il y a aussi le son des groupes de Détroit pré-punk comme les MC5, The Stooges, qu'il admire beaucoup. Et aussi, il cite le groupe punk de Los Angeles des années 80, The Gun Club. Par ailleurs, Jack White est aussi un grand admirateur de Jimmy Page.
Ça se sent pas, par contre. On le ressent pas dans le jeu.
Ouais.
Ouais.
Et je propose qu'on écoute le morceau Jumble Jumble.
Ah oui, donc, ce titre assez court, mais qui a fait donc. Qui a entraîner un peu la chute des White. Allez, on écoute. C'était Jumble Jumble, donc cette chanson qui a fait tomber le groupe The White Stripe. Alors on a parlé des inspirations donc de Jack White, mais alors on va parler aussi du côté visuel, du code visuel en fin de compte du groupe. Alors les White Stripes jouent sur trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc, vraiment les couleurs de base, hein. Leurs pochettes de disques, leurs vêtements, leurs instruments sont tous de ces couleurs là. La raison est simple, hein. Lorsqu'on est, on ne peut percevoir toutes les couleurs. Le rouge est la première d'entre elles que l'on perçoit, mis à part le noir et le blanc. Jack White a également expliqué dans une interview que ces couleurs étaient les plus fortes, ayant le plus d'impact au niveau historique. D'ailleurs, il se permet de citer d'ailleurs quand même deux exemples, hein, qui sont le nazisme avec les couleurs de la croix gammée du drapeau nazi et Coca-Cola. Alors bon, pas de rapport entre les deux, hein, mais on parle, voilà, on est bien côté couleur. Hein.
Bah, si ce n'est l'impérialisme ou je ne sais quoi, mais oui, effectivement, en termes de...
J'ai rien dit.
en termes d'impact, le coca, les nazis, c'est vrai que ça a eu un fort impact. C'est, le rouge, le noir.
Ouais, je pense que les couleurs, voilà, c'est et c'est ces couleurs-là justement de base qu'on avait dans le style de Stigel, du nom de leur album. Mm-hmm. Alors, le cinéma s'est intéressé aussi.
Oui, le cinéma aussi s'est intéressé à leur musique, notamment il y a la série britannique Peaky Blinders, qui utilise de nombreux titres des White Stripes dans sa bande originale, et dont notamment leur reprise du morceau traditionnel St. James Infirmary Blues. C'était un des deux standards du blues qu'ils avaient repris dans leur premier album. Et on va l'écouter tout de suite.
Ah bah oui, on va pas se gêner.
Let's go.
Vous êtes en direct sur Prokisto. Prokisto.
C'était donc St. James Infirmary Blues. Sacré titre quand même aussi. Et encore rien à voir avec ce qu'on a pu écouter précédemment. C'est incroyable. Alors, on avait dit qu'on reviendrait sur le titre Seven Nation Army parce que bon, il a fait le tour du monde et même le monde du sport se l'est approprié quand même et complètement. Il a été popularisé par les supporters de clubs et s'entendent lors de nombreux événements. Il aura été chanté pour la première fois en octobre 2003 lors d'une rencontre du club Bruges AC Milan. Le riff fut alors repris en ligue, carrément. En France, il est popularisé dans le milieu sportif par le groupe de supporters de l'équipe de Caen en 2004.
Oui, et on l'entend beaucoup dans les stades depuis. Hein.
Bah oui, et ça revient à chaque fois comme We Are the Champion de Queen, mais les Corons au stade de Lens.
Ouais. C'est culturel, c'est voilà. Seven Nation Army dans tous les stades de par la planète, quoi. C'est la force du riff en fait, qui est hyper simple, hyper marquant et.
Et qui se chante facilement.
C'est un truc que je. Enfin, je sais que je l'ai déjà. Enfin, parfois juste joué entre deux morceaux et en fait, ça reste dans la tête. Une heure après, en fait, je l'ai joué juste 5 secondes et le truc reste. Quoi. Les gens l'ont gardé dans la tête, même si j'ai fait 10 morceaux depuis.
Ah ouais.
C'est un truc très puissant.
C'est vraiment un morceau sacrément original. Mmh. On va écouter un autre titre, The Hardest Button to Button.
Ouais, le plus dur bouton à boutonner.
Le plus dur bouton boutonné, c'est celui du haut ou celui du bas? On verra. Écoutez les paroles.
The hardest button to button.
Alors, en fin de compte, on sait toujours pas lequel.
Non,
c'est.
Bah du coup, ouais, on n'a pas regardé.
C'est vrai, et on n'a pas écouté plus que ça.
Je pense que ça dépend des gens.
Ouais.
j'ai pas fait attention à ce qu'ils disaient eux, mais ouais. Donc voilà, c'était juste pour dire aussi côté solo, Jack White a fait des petites choses de son côté. En solo, il a participé notamment à un projet parallèle qui s'appelle The Raconteurs, groupe avec lequel il sort l'album Broken Boy Soldiers en 2006 et Consolers of the Lonely en 2008. On le retrouve aussi à la batterie dans un super groupe qui s'appelle The Dead Weather, composé de Alison Mossart de The Kills, gros groupe, de Dean Fertitta de Queens of the Stone Age, très gros groupe,
ouais.
De Jack Lawrence de son groupe The Raconteurs, et ils ont l'album Whorehound en 2009, Sea of Cowards en 2010, et même trois albums avec Dodge and Burn en 2015. Donc voilà.
Bah c'est pas mal tout ça, hein.
Bah ouais, c'est pas mal, Jack White a continué un peu.
Voilà.
À faire de la musique à droite, à gauche.
Ouais. Eh ben, écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que les auditeurs ont apprécié, en fin de compte, de découvrir certainement ce groupe, parce que on n'en connaît que très peu, bien souvent. Moi, personnellement, j'ai découvert un groupe multifacette, voilà, quoi, musicalement, et c'était assez génial, voilà.
Ouais, avec ce côté très blues qui ressort qu'à moitié hein, dans leur grand tube finalement, ouais, mais ouais, ouais. Qui est extrêmement présent aussi, notamment au début de leur carrière. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Très blues, très garage.
Eh bien écoute, moi je te propose c'est de dire au revoir à nos auditeurs, de leur souhaiter une bonne semaine.
Bah, tout à fait.
Ouais.
Au revoir à nos auditeurs et bonne semaine à tout le monde.
Ouais, et on se retrouve lundi prochain alors.
Bah, ça marche carrément.
Hein, donc tu reviens en cinquième semaine alors.
En cinquième semaine.
Oh la vache, ça va être notre grand gagnant de l'année là.
J'aurais tenu un mois. Waouh, waouh.
Super. Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on se quitte sur un titre donc, qui s'appelle Black Mat. Donc c'est White Stripe. Et puis, bah, ciao, ciao.
Ciao. Now
meeting now.
Rockisto.
Tous les lundis
de 19h à 20h et en podcast
sur Radio Rec 103-7.org.